C'est un brin d'histoire. Je suis Christian Lacombe et j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Un brin d'histoire va nous permettre d'aborder, en peu de temps, des moments de notre passé axés sur notre région, le Volvestre et ses alentours, afin de mettre en valeur la richesse de notre patrimoine. Nous n'avons pas la prétention de trop assommer l'auditeur avec des dates ou des faits trop complexes. Nous avons seulement le désir de vous faire aimer notre terre et ceux qui l'ont occupée. Le déroulement de nos sujets sera relié à la grande histoire de France, afin bien sûr d'en situer les époques et les événements marquants que nous connaissons déjà, mais que nous rappellerons. Je tiens à préciser que j'appartiens à plusieurs associations d'histoire du Volvestre et que nos publications que nous avons faites déjà vont bien sûr être diffusées par votre radio. Je citerai mes sources bibliographiques à toutes les émissions. Aujourd'hui, nous allons parler du livre « D'un roman » d'André Bonnery et Julie Perrineau, publié chez MSM, l'an 1000. Voici le sujet. Après des périodes d'invasion des 8e et 9e siècles, d'insécurité et de misère, un temps de nouvel équilibre s'est institué en Europe. Une nouvelle carte s'est dessinée à la suite du découpage de l'Empire carolingien. Pourtant, l'entrée dans l'an 1000 a troublé les esprits, posant à chacun la peur de la fin du monde. Une nouvelle Europe apparaît. La Méditerranée perd son rôle centralisateur. L'extension orientale et septentrionale impose une transformation radicale. La croissance démographique est un aspect très important et a des conséquences rurales et urbaines. Les grands défrichements vont s'opérer, mettant en valeur des terres inoccupées, ceci entraînant le recul de la forêt. Bien outillés et formés, on se livre à des écobuages et des assèchements, de l'irrigation. Les monastères et les seigneurs offrent aux paysans un intérêt à se fixer au sol. Malgré les charrues, encore rudimentaires, à socs de bois trempés, apparaissent les jougs frontaux, les colliers d'épaule. Tout cela augmente les rendements. L'excédent de population de ce monde rural va se fixer dans les villes, dans le nord. Les villes sécurisées débordent de leurs remparts antiques. Les bourgs et les faubourgs apparaissent, souvent autour d'abbayes, de châteaux, au croisement de routes et de ponts. Les habitants de ces villes sont libres, indépendants, attirés par l'appât du gain et les opérations commerciales. On adapte l'ancien réseau romain aux nouveaux échanges commerciaux. De grandes foires attirent les négociants. Les fleuves, qui étaient des vecteurs d'invasion, deviennent de paisibles voies commerciales. Des moulins s'implantent tout le long. La société féodale évolue vers une indépendance des seigneurs et se crée des liens entre vassal et suzerain. Ces liens, bien codifiés, entraînent entre les contractants une série de droits et de devoirs. C'est ce que l'on appelait la féodalité.
Thank you.
chrétienne s'affirme. Le catholicisme joue un rôle d'assimilation. Il se crée une structure religieuse avec création d'archevêchés et d'évêchés. On parle de réforme grégorienne et l'élection du pape lui donne le pouvoir au-dessus des rois. La réforme religieuse, initiée depuis Charlemagne, a permis la fondation de communautés religieuses monastiques régies par la règle de Saint-Benoît. C'est ainsi que Cluny s'impose par son esprit de réforme et sa grande culture. En Europe, il y aura 1450 maisons clunisiennes à la fin du XIIe siècle. Près de chez nous, l'abbaye de Lezat fut fondée en l'an 1000. Les cisterciens viendront plus tard, au XIIe siècle. Rappelez-vous l'abbaye de Bonnefonds.
Thank you.
les seigneurs vont se soumettre à cette autorité religieuse et apportent leur soutien aux communautés religieuses, à la construction des églises, des cathédrales, et font des dons pour la construction d'abbayes. Certains évêques vont pouvoir accéder aux pouvoirs seigneuriaux, ce qui d'ailleurs entraînera des conflits. L'apparition, à partir des temps carolingiens, de la dévotion pour les reliques des saints, et en Occident pour celle de Saint-Jacques de Compostelle, entraîne des mouvements de population qui sont étroitement liés au développement des villes, des monastères, des cathédrales, à leur architecture. C'est la naissance de l'art roman. Ainsi se créent des sanctuaires qui séparent le chevet, amplifié et sacralisé par les autels, et la nef, qui rassemble religieux et fidèles. Les plans d'édifices avec des déambulatoires, c'est-à-dire des couloirs de circulation, des chapelles rayonnantes, se diffusent. Le XIe siècle voit le triomphe de la pierre sur la terre et le bois. On récupère des pierres antiques. La maçonnerie est un blocage de pierres cassées au marteau et noyées dans un mortier. Mais, peu à peu, on retourne pour la partie la plus noble à un appareil de pierres taillées sur toutes les faces, liées entre elles au mortier fin. On recherche des carrières. Le transport par voie fluviale évoluant en fonction des moyens financiers de chaque maître d'ouvrage. À Saint-Cernin, pour des raisons financières, on associera la brique à la pierre. Dans notre région du Volvestre, la Garonne est un vecteur important de transport de pierre et marbre en direction de Toulouse. Pour mettre sur pied cette politique destinée à l'ensemble de l'Europe, l'appel à de grands artistes créateurs est nécessaire. Ceux-ci vont apporter leur sensibilité et créativité avec une diversité exceptionnelle. Retrouvons-nous très vite, si vous le voulez, pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5.